Radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
Je commençais très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de rencontrer un homme qui a décidé de vivre sa vie comme une aventure et de donner un sens à son existence. Après avoir réalisé un tour du monde en ballon, après avoir fait rêver avec son avion solaire Solar Impulse 2, Bertrand Piccard nous offre aujourd'hui une autre forme de voyage, un voyage intérieur. Cet explorateur de génie utilise une métaphore pour nous aider à comprendre que changer d'altitude peut nous aider parfois à ne plus lutter contre les vents de la vie. Il ne faut pas oublier, Bertrand Piccard est aussi médecin psychiatre et la psyché, il connaît. Ce n'est pas tout, cet aventurier des temps modernes nous propose un projet de société qui, à mon avis, sera le projet du 21e siècle. Il a même inventé un mot, l'éco-humanité, qui allie écologie, économie et humanisme. Mais vite, accrochons nos ceintures afin de changer d'altitude et de trouver quelques solutions pour mieux vivre sa vie. Tel est le titre du livre de Bertrand Piccard qui paraîtra mercredi aux éditions Stock.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Écoutez l'histoire de Bertrand Piccard, une émission réalisée et habillée par Simone de Poux, préparée par Corinne Valente, mixée par Sandrine Laurent et Julien Chabassu, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé cette programmation musicale.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Bertrand Piccard, d'où venez-vous ?
Je viens d'une famille de chercheurs. Mon père était un chercheur explorateur du monde extérieur. Il a construit des sous-marins, il a exploré la fosse des Mariannes, il a exploré le Gulf Stream. Et puis ma mère était une chercheuse d'âme, de spiritualité, de sens de la vie.
Ça m'intéresse.
Ben oui, je pense. Et moi, ça m'a énormément intéressé aussi et j'ai essayé de combiner les deux. Donc en fait, je viens de deux pôles différents, le pôle intérieur, le pôle extérieur, mais toujours avec ce besoin de comprendre et de découvrir.
C'est un peu comme si vous aviez allié les deux, l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors.
Oui, après avoir été longtemps tiraillé entre les deux, en me disant qu'il fallait en faire un, puis ensuite je me culpabilisais de ne pas faire l'autre, puis finalement je vois qu'on peut faire les deux, et que finalement la vie c'est les deux, c'est la relation avec le monde intérieur, avec son psychisme, son âme, son comportement, ses espoirs, ses doutes, et puis le monde extérieur, parce que c'est quand même là qu'on vit aussi.
Vous étiez un enfant timide, je crois.
Oui, mais je me suis soigné. J'étais craintif aussi, j'avais peur de monter dans les arbres. Et je me suis soigné à coups de vol acrobatique en aile delta. En fait, on peut beaucoup changer. Tous les gens qui disent qu'ils ont peur définitivement, c'est ceux qui n'ont pas compris à quel point on peut changer, se remettre en question et s'améliorer.
Vous dites que vraiment, vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous ont toujours laissé poser des questions et ils vous ont toujours répondu.
Alors, ils m'ont toujours répondu et parfois, ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas. Et ça m'a aussi permis de comprendre qu'il y a des points d'interrogation, qu'il y a des mystères et qu'il ne faut pas forcément trouver des réponses. Mais par contre, il faut toujours poser les questions.
C'est ce que vous faites un peu aussi dans votre livre, d'ailleurs. Vous posez beaucoup de questions sans forcément apporter des réponses.
Mais oui, et je pense qu'il y a certaines réponses qui sont malhonnêtes à donner. Je crois que sur le sens de la vie, je pense que sur Dieu, je pense que sur la spiritualité, il vaut mieux poser des questions qui vont peut-être éveiller un intérêt ou une curiosité chez l'autre qu'asséner des vérités. On nous assène des vérités à longueur de journée, c'est pas ça qui nous rend meilleurs. Donc je pense qu'il faut au contraire entrer dans cette interrogation plutôt que dans cette manière de dogmatiser la réalité.
Vous vous rappelez à quel moment vraiment vous vous êtes posé la première fois cette question du sens de la vie, du mystère de la vie? C'est quelque chose qui était toujours présent chez vous?
C'est quand mon grand-père est mort, j'avais 4 ans, et c'est là que j'ai commencé à essayer de savoir à quoi ça servait de vivre et de mourir.
À cet âge-là, vous avez posé des questions? Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction?
Alors, à cet âge-là, j'ai commencé à poser beaucoup de questions à ma mère. On a fait beaucoup de discussions, beaucoup de promenades. Le soir, après le dîner, on allait se promener dans la forêt, dans la campagne, dans la montagne, suivant où nous étions, pour parler de tout ça. Et c'était vraiment quelque chose qui, depuis ma jeunesse, depuis mes premières années, a toujours été fondamentalement important. Je me suis toujours dit qu'en fait, ça ne servait à rien de vivre si on ne se posait pas la question de pourquoi on était en train de vivre, à quoi ça servait, où on devait aller, d'où on venait. Donc forcément, votre proverbe africain, je l'aime beaucoup.
On raisonne bien alors, c'est bon.
Tout à fait.
Bertrand Piccard, vous venez de le dire, hein, vous êtes issu d'une famille d'explorateurs, d'aventuriers, de scientifiques. Vous avez été bercé, vous avez entendu des histoires extraordinaires, mais ce n'était pas que des histoires. C'est-à-dire que les personnages dont vous parlez, vous les avez rencontrés. Pour vous, ça a été concret, ça a été une réalité. Et ce qui a fait sans doute que justement, votre vision de la vie, la réalité a été pour vous différente de beaucoup d'enfants.
Ce qui a été très différent, c'est que tous les rêves que j'avais, finalement, se réalisait de manière très concrète. Je lisais des livres sur la conquête de l'air et je rencontrais Charles Lindbergh. Je lisais des livres sur la conquête de l'espace et je rencontrais les astronautes du programme américain, Wernher von Braun, d'autres explorateurs, des plongeurs, des gens qui protégeaient l'environnement. Donc finalement, il n'y avait pas de limite entre mes rêves et la réalité. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je me suis toujours dit après ça que si on a des rêves, on doit pouvoir travailler pour les réaliser et que finalement, la vie nous permet de réaliser beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. C'est souvent nous-mêmes qui nous imposons des limitations plutôt que de nous laisser créer, explorer et découvrir.
Bertrand Piccard, un des moments fondateurs de votre vie, justement, c'est lorsque vous allez assister au décollage d'Apollo à Cap Kennedy et vous avez 11 ans. Et là, vous vous dites, je sais ce que je vais faire de ma vie. C'est ce que je veux vivre, je veux être un aventurier, un explorateur.
C'est vrai que j'ai une chance incroyable de voir partir 6 fusées Apollo, dont Apollo 11 pour la Lune. Et là, je me suis vraiment dit que j'avais envie d'être explorateur. Et en même temps, c'était un profond moment de doute parce que la Lune avait été conquise et je ne savais pas ce qu'il y avait d'autre à faire. J'avais l'impression que le rêve ultime de l'humanité avait déjà été accompli.
Ça vous a donné vraiment le sentiment de vivre l'événement le plus important de l'humanité.
À ce moment-là, je me suis vraiment dit que c'était la plus fabuleuse aventure que l'humanité pouvait faire. Et puis ensuite, j'ai réalisé que l'être humain avait conquis la Terre, conquis la Lune, et qu'il n'avait pas encore conquis la qualité de vie sur cette planète. Et qu'il restait tellement de domaines à améliorer sur notre Terre, que ce soit la lutte contre la pauvreté, que ce soit les droits humains, que ce soit la lutte contre certaines maladies, que ce soit le développement durable, que ce soit les technologies renouvelables. Tous ces domaines-là, finalement, ne sont pas du tout explorés. Et si on veut vivre mieux, on est obligé d'être en meilleure harmonie également avec soi-même et avec son environnement. Et ça, c'est un domaine, je pense, ouvert au 21e siècle qu'il ne faut pas négliger.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire médecine ?
L'exploration du monde intérieur. Je me rappelle le jour où je me suis demandé, je parlais avec mes parents, j'hésitais entre ingénieur et médecin. Bon, c'est pour les psychanalystes, c'est assez classique, on hésite entre faire comme maman ou comme papa. Finalement, je me suis dit que construire des sous-marins et être ingénieur comme mon père, finalement, c'était entrer dans une routine. Donc, ce n'était pas du tout un monde d'explorateur, de refaire la même chose que les ancêtres. Donc, je me suis dit que j'allais être médecin, mais pour faire de la psychiatrie, pour faire de la psychothérapie. Et c'était vraiment ce domaine-là que j'avais envie de développer.
Plutôt une aventure intérieure, alors.
Plutôt aventure intérieure.
Vous aviez...
Je pensais que le reste, je pourrais le faire de toute façon. Mais pour l'aventure intérieure, j'avais envie de faire des études de médecine. Et ensuite, évidemment, ça ne m'a pas suffi. C'est pas la psychothérapie classique qui m'a donné les outils pour soigner. J'ai été ensuite chercher dans l'hypnose, dans l'hypnothérapie ericksonienne. Et là, j'ai trouvé des outils fabuleux. Et ces outils-là me permettent de faire le lien entre beaucoup d'intérêts, entre le monde intérieur et le monde extérieur.
Pourquoi vous vous sentiez limité dans cette première formation de médecin et de psychiatre ?
Parce qu'on m'apprenait des outils très dogmatiques et je ne supporte pas les dogmes. C'est-à-dire que je ne supporte pas que des êtres humains définissent une réalité immuable alors qu'il y a beaucoup de réalités différentes et que rien n'est immuable dans la vie. Donc je suis parti dans des médecines parallèles, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, des cours de méditation, des recherches spirituelles. Et puis finalement, avec l'hypnose, j'ai vraiment réussi à combiner tous mes intérêts.
Vous êtes rentré dans l'hypnose un peu par hasard, vous dites. Peut-être par curiosité quand même.
Mais parce que je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit c'est spectaculaire, c'est un outil magique, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'hypnose qui est magique. Ce qui est magique, c'est ce qu'on arrive à en faire quand on l'utilise. L'hypnose, les gens ne se rendent pas vraiment compte. C'est un retournement du regard. Normalement, on vit à l'extérieur de soi. Normalement, on a son regard vers l'extérieur et son monde est un monde extérieur. Dans l'hypnose, on retourne ce regard vers l'intérieur, ce qui permet de porter sa conscience sur ses émotions, sur certains souvenirs, sur des visualisations, sur des sensations. Et tout à coup, on se sent vivre beaucoup plus que dans la vie de tous les jours.
Ce n'est pas une technique.
Non, c'est mal compris si on croit que c'est une technique. Je pense que l'hypnose, c'est une manière de vivre, c'est une manière de se gérer soi-même. Alors on n'est pas forcément toujours en transe, c'est sûr, mais dans l'auto-hypnose, on utilise cette relation avec soi-même, avec son vécu dans l'instant, pour être finalement beaucoup plus efficace.
Ce que vous faites aussi quand vous faites des études de médecine, je crois que parallèlement, vous pratiquez le sport, un sport extrême, l'aile delta, et ce sport va vous affranchir.
Alors j'ai toujours pris dans ma vie toutes les opportunités qui me permettaient d'aller dans le domaine inconnu, d'aller dans l'exploration, d'aller dans la découverte de soi. Et l'aile delta, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais peur de monter dans un arbre, ça a été un fabuleux traitement.
Oh mon Dieu, oui.
De se retrouver pendu à un triangle de toile à 3000 mètres d'altitude et de réaliser à quel point on peut se connecter à soi-même dans l'instant présent pour développer des ressources de courage, de confiance, de vigilance, de concentration. Ça m'a vraiment transformé. En fait, c'est peut-être la première fois que j'ai fait le lien entre les lectures de philosophie que je faisais et puis une réalité qu'on pouvait vivre quotidiennement.
C'est par rapport aux philosophies orientales que vous aviez étudiées ?
Mais j'avais lu des tas de livres où on disait qu'il fallait développer sa conscience de soi dans l'instant, qu'il fallait apprendre à lâcher prise, qu'il fallait percevoir son monde intérieur. Mais tout ça, c'est des buts. Et souvent dans les livres, on donne des buts, mais on ne donne pas les moyens pour les atteindre. Ce qui fait que je trouvais ça très frustrant. Mais alors avec l'aile delta, je voyais que, effectivement, l'être humain peut vivre avec une concentration, une vigilance et une conscience nettement supérieure. Et que ça apprend à réagir beaucoup plus finement. Ça permet d'être plus en confiance. Ça permet de réagir à des agressions extérieures, à des peurs. Et finalement de décupler ses capacités de performance.
Parce que vous dites qu'à ce moment-là, vous allez comprendre ce que vraiment l'instant présent, enfin, ça vous a métamorphosé.
Oui, parce que je crois qu'on vit toujours dans le passé ou dans le futur. Quand on vit dans le passé, on ressasse des vieilles choses et souvent ça nous rend dépressifs. Mmh. Et quand on vit dans le futur, on projette des problèmes sans projeter des solutions et on vit dans l'angoisse. Mais on oublie que le seul moment où on peut changer quelque chose à sa vie, c'est dans l'instant présent.
J'avais noté ce que vous dites dans votre livre.
Hein, ouais, mais c'est fondamental de réaliser que pour vivre l'instant présent, on doit se sentir exister et il ne faut pas forcément penser. Le « je pense donc je suis » de Descartes, pour moi, c'est une hérésie.
Oui, vous dites « je ressens donc je suis ».
C'est « je ressens donc je suis », je me sens vivre, je sens mon corps, je sens mes mouvements, je sens toute mon interaction avec moi-même et avec le monde extérieur. Et là, ça me permet d'être. En ce moment, j'ai l'impression que je vis à l'intérieur de moi-même parce que je vous parle de quelque chose qui est vraiment présent.
Et pourquoi penser, donc je suis, pour vous, ce n'est pas l'instant présent?
Parce que quand on pense, on n'est pas. Quand on pense, on est dans le passé, on est dans le futur, on est ailleurs, on est dans un autre lieu, on est dans un autre temps. On se projette à l'extérieur de soi, donc on ne peut pas être. Je pense que la seule manière de vraiment être, c'est de ressentir. Et pas de pensée. Alors la pensée est utile, mais il ne faut pas croire que la pensée, c'est ce qui va nous rendre présents à nous-mêmes.
Oui, parce
la
que c'est
pensée,
créatrice.
Ça nous permet de fonctionner, d'anticiper, de gérer des tas de choses. C'est important, mais ce n'est pas ça qui nous permet d'être vraiment performants dans l'instant. On ne peut pas penser à une solution. On peut vivre et ressentir une solution.
C'est d'ailleurs le delta qui vous a, on va dire, motivé à devenir psychiatre. Pourquoi ?
Parce que j'ai eu l'impression que les gens qui ont des problèmes psychologiques sont très souvent des gens qui ne vivent pas en contact avec eux-mêmes dans l'instant présent. Et que ce que m'avait montré l'aile delta dans le vol acrobatique, dans ces moments d'hypervigilance et d'hyperconscience, pouvait être appliqué dans la psychothérapie.
Et cet instant présent, comment on peut le toucher, comprendre vraiment ce que c'est?
Je pense qu'une des manières de le ressentir, oui, c'est de le vivre dans tous les instants où on sort de sa routine, où on sort de ses habitudes. Donc en fait, dans tous les moments qu'on essaye d'éviter habituellement. Tous les moments qui nous déconcerte, tous les moments de doute, tous les moments où les choses ne vont pas exactement comme on veut. Là, il y a un petit intervalle, il y a un petit moment de rupture qu'on peut accepter ou refuser. Si on le refuse, je pense qu'on souffre. Si on l'accepte, je pense qu'on se remet en contact avec soi-même et on vit un moment de vigilance. Alors on peut appeler ça un moment de grâce, on peut appeler ça un moment de conscience, on peut appeler ça un moment de performance, de contact avec soi-même, de confiance. Et c'est ces moments-là du quotidien qu'il faut essayer de saisir.
Donc c'est aussi grâce au delta que vous comprenez la maîtrise de soi, le contrôle. Pendant de nombreuses années, vous allez être comme ça, dans le contrôle.
Alors maintenant, avec le recul, je vois qu'il y a deux aspects très contradictoires dans le contrôle. D'habitude, on essaie de contrôler la vie. Et ça, on ne peut pas la contrôler parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle dépend des autres, elle dépend d'autres lois extérieures. C'est impossible de contrôler la vie, c'est impossible de contrôler ce qui nous arrive. Par contre, on peut se contrôler soi-même. Et se contrôler soi-même, ça ne veut pas dire être complètement névrosé, être complètement rigidifié, puis contrôler tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, non. Mais contrôler, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire être en relation avec soi-même. Ça, on peut le contrôler. Et cet aspect-là, je l'ai découvert dans l'L-Delta et j'ai pu continuer à l'utiliser après dans le reste de ma vie. Aussi, comme thérapeute, essayer d'utiliser cette conscience de soi et ce contrôle de ces moments de vigilance et de conscience pour mes patients.
Mais vous dites dans votre livre qu'il vous a fallu attendre devenir pilote de ballon pour réaliser à quel point l'efficacité du contrôle a ses limites.
Oui, parce que dans le ballon, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on est emporté par le vent et on ne peut pas diriger les vents. Donc la seule manière de faire, c'est d'accepter que c'est le vent qui est le plus fort. Et ensuite d'utiliser le vent à différentes altitudes pour trouver différentes trajectoires. Et cette espèce d'abandon de ce besoin permanent de contrôler la vie, ça aussi, ça crée plus de conscience, ça crée aussi plus de performance. C'est très paradoxal. Mais à partir du moment où on réalise que ça ne sert à rien de se battre contre les choses qu'on ne peut pas contrôler, on devient beaucoup plus fort intérieurement. Et il y a énormément de choses dans la vie qu'on peut utiliser plutôt que combattre. Et je pense que si tellement de gens souffrent dans la vie, c'est avant tout parce qu'ils essayent de contrôler et de changer des choses qui sont totalement en dehors de leur contrôle et de leur possibilité de changement. Et que si on réalise ça, on réalise que ce n'est pas l'extérieur qu'on doit changer, c'est soi-même. Donc, tout à coup, on est dans un rapport avec soi-même qui est très différent. On est dans le rapport où on sait qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, qu'on peut s'améliorer et qu'on a des outils pour le faire.
Ça, vous l'avez compris comment, Bertrand Piccard ?
Mais ça, je crois que je l'ai compris essentiellement à travers mes vols en ballon de très longue durée, où je me retrouvais emmené par le vent. Ma première expédition en ballon, c'était sur l'Atlantique. C'était 5 jours et 5 nuits entre les États-Unis et l'Europe. C'était une course entre 5 ballons. Les conditions météorologiques, pas du tout comme ce qui était prévu. Nous étions sous la pluie, dans une tempête. Deux concurrents ont amerri en catastrophe. Et moi, c'est la première fois que j'étais vraiment dans une situation où je voyais que je pouvais me changer moi-même, justement parce que je ne pouvais pas changer le monde extérieur. J'étais complètement prisonnier de la situation. Je ne savais absolument pas ce qui allait se passer juste après. Et c'est ça qui m'a ouvert la relation à moi-même, à ma confiance, et en voyant qu'on pouvait le transposer à la vie.
C'est devenu une métaphore de la vie. Hein,
c'est devenu ça. Une métaphore de la vie. C'est-à-dire qu'on peut lâcher nos certitudes, lâcher nos habitudes, lâcher nos convictions.
Comme on se déleste
exactement,
dans un
comme
ballon.
Comme tu laisses dans un ballon, pour changer d'altitude dans les vents de la vie et trouver d'autres directions, d'autres trajectoires, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Et cette flexibilité-là, je pense qu'elle est absolument fondamentale dans la vie.
Vous dites dans votre livre qu'un vol en ballon est l'image de la vie, une permanente gestion de crise.
Oui, mais de crise qui nous servent à quelque chose. Parce que quand on parle d'une crise dans la vie de tous les jours, très souvent, ça implique automatiquement pour ceux qui parlent une notion de souffrance, une notion de devoir résister à cette crise, de devoir essayer de redevenir comme on était avant pour surtout pas aller dans le sens où la vie veut nous emmener si c'est pas là où on veut aller. Alors que la crise, c'est justement au contraire le moment où on peut se demander ce qu'on peut apprendre de différent et quels sont les outils qui nous manquent aujourd'hui pour pouvoir fonctionner mieux. Donc la crise, je ne dis pas du tout que c'est agréable et que c'est amusant, mais c'est fondamentalement important et fondamentalement utile parce que ça nous permet d'évoluer, de nous développer, de trouver d'autres sources, d'autres outils, d'autres compétences.
Dans ces premiers vols en ballon, ce que vous comprenez, c'est que justement, le contrôle, on ne peut pas toujours l'avoir et qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, mais pas n'importe quel lâcher prise.
Mais j'ai toujours été déconcerté par le lâcher prise dans les livres de développement personnel ou de philosophie orientale.
Parce que y a on a rien... du mal à comprendre.
Mais oui, parce qu'il n'y a rien de plus antinaturel que de lâcher prise sur la vie. Parce qu'on s'est pris de manière fataliste et on se dit, mais il ne faut justement pas faire ça. En fait, le lâcher prise, ce n'est pas par rapport à la vie. Le lâcher prise, c'est par rapport à son besoin intérieur de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et de croire systématiquement que ce qu'on veut est la meilleure des choses. Alors que ce n'est pas du tout ça. On a une vision tellement restreinte de l'existence et du monde que ce qu'on veut le plus, ce n'est pas du tout forcément ce qui va nous faire le plus de bien. Donc arriver à lâcher notre propre besoin de contrôle nous permet de trouver beaucoup d'autres choses qui sont parfois bien plus bénéfiques pour nous.
Vous dites l'absence de puissance et de pouvoir puisqu'on ne peut compter sans aucun moteur en ballon, bien évidemment. Mais on peut faire l'analogie dans la vie.
Mais oui, mais je crois que dans la vie, on est vraiment emporté par la vie. Et très souvent, on fait beaucoup mieux d'essayer de comprendre où la vie pourrait nous amener que de systématiquement résister à tout ce qui se passe. Et là aussi, moi je suis très sensible à la souffrance des autres autour de moi. Ça, c'est peut-être une des choses qui m'a aussi amené à être médecin, essayer de comprendre comment se libérer de cette souffrance. Je pense que la plus grande partie de la souffrance qu'on a dans la vie vient du fait qu'on a une vision trop réduite de son existence et on essaye de se focaliser sur ce qu'on connaît, ce qu'on veut garder, plutôt que de se concentrer sur ce que la vie peut nous amener.
Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. A blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you?
Bertrand Piccard, comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre, Changer d'altitude, quelques solutions pour mieux vivre sa vie ?
J'ai donné beaucoup de conférences depuis une vingtaine d'années. Puis je parle sans notes, je n'ai pas envie de donner un enregistrement. Finalement, je me suis dit qu'il faut absolument que je puisse avoir quelque chose à laisser aux gens qui m'ont entendu. En fait, je croyais que c'était un livre qui serait utile aux gens qui se posent des questions sur leur vie. Et je réalise maintenant qu'en fait, il est encore beaucoup plus utile pour ceux qui ne s'en posent pas du tout.
Mathieu Ricard, qui a écrit la préface de votre livre, dit que en fait, ce sont des leçons de vie. Ce sont vos propres expériences que vous avez envie de transmettre.
Oui, mais qui ne sont pas uniquement axées sur ce que j'ai vécu en tant que personne. J'essaye, dans les expériences que j'ai vécues, d'en prendre ce qui peut être généralisé, ce qui peut être utile aux autres. Ça, c'est important. En laissant aussi la parole, de manière bien sûr totalement anonyme, mais à des patients que j'ai eus, à ce qu'eux avaient découvert à travers leur crise, à ce qu'eux avaient découvert à travers leur thérapie, de manière à ce que ce soit transposable aux, aux gens qui cherchent à aller mieux.
Donc en fait, vous exposez un petit peu toutes les conditions nécessaires pour changer d'altitude. Comment on change d'altitude dans sa vie? Et comment on sait qu'on est à la bonne altitude?
Je pense qu'on ne peut pas savoir tout de suite qu'on est à la bonne altitude. On croit qu'on est à la bonne altitude, parce que c'est celle qu'on a, et on se dit, bah forcément, je ne peux pas me tromper, alors qu'au contraire, il faut apprendre à se remettre en question et réaliser que le plus souvent, on se trompe. Et que la manière de changer d'altitude, c'est d'arriver à identifier assez clairement ce qu'on pense vraiment ou ce qu'on croit vraiment et essayer autre chose. Essayer d'avoir une palette de comportements différents, une palette de compréhensions différentes et de sortir de tout ce qui est dogmatique. On ne peut pas vivre bien dans sa vie si on a un seul parti politique, une seule religion, une seule profession, une seule manière de penser, une seule manière de vivre. Je pense qu'il faut s'intéresser à toutes les religions différentes et à tous les partis politiques différents, parce qu'il n'y en a pas un seul qui a la compréhension parfaite. Mm-hmm. Je pense que dans toutes les professions, il y a des choses qu'on peut apprendre. Il faut essayer d'être le plus perméable possible et le moins étanche possible pour pouvoir s'imprégner de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, et surtout éviter d'être avec des gens qui nous ressemblent trop. Si on veut vraiment changer d'altitude, il faut être avec des gens qui sont très différents, qui nous remettent en question, qui nous secouent un peu et qui nous disent « Ouais, mais attends, là, t'es bloqué dans un truc parce que t'as pas vu qu'il y a un autre chemin, une autre altitude, une autre compréhension, une autre vision du monde. »
Donc sortir de notre zone de confort.
Il faut sortir de la zone de confort chaque fois qu'on peut. Mm-hmm. Chaque fois. Et alors, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Et je crois que c'est là que l'auto-hypnose est intéressante. Parce que l'auto-hypnose, c'est vraiment une relation à soi-même qui crée une confiance intérieure et qui nous donne les outils pour sortir de notre zone de confort, pour voir autre chose, pour penser autrement.
Je vous ai vu d'ailleurs sur France 2 dans l'émission sur le cerveau avec Michel Simès. Comment vous, vous auto-hypnotisez?
Finalement, l'auto-hypnose, c'est quoi? L'auto-hypnose, c'est la manière de retourner le regard vers l'intérieur pour utiliser ce qui se passe à l'intérieur de soi ou pour être en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de soi.
C'est une dissociation.
C'est une dissociation et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que je pense que la dissociation, donc la coupure par rapport à la manière dont on fonctionne habituellement, c'est aussi une manière d'entrer dans le monde spirituel, de sortir de l'habitude automatique. La spiritualité, c'est une manière d'avoir davantage de conscience qu'on est en train de vivre.
C'est pas une question de religion.
Non, c'est pas du tout une question de religion. Je pense que la religion, c'est une manière humaine d'expliquer la spiritualité. La spiritualité étant, elle, amenée par des initiés ou par des prophètes ou par des messies ou par des grands maîtres. Mais ensuite, c'est codifié pour survivre à travers le temps. Parce que sinon, peut-être ce serait oublié. C'est très possible que sans religion, on se rappellerait même plus qu'il y a eu Mahomet, qu'il y a eu Jésus-Christ, qu'il y a eu Bouddha, si on admet que c'est une religion. Bon, je pense que c'est plus une philosophie. Il y a des traces qui sont gardées par les humains pour se rappeler que ça existait. Maintenant, il ne faut pas croire que ces traces laissées par les humains représentent la réalité initiale. La réalité initiale, il faut essayer de la retrouver à travers des pratiques intérieures, à travers des rituels, des méditations, des prières.
C'est ce que vous faites, oui.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. On peut toujours en faire plus, mais... mais je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui peut se vivre au quotidien dans une ouverture à d'autres dimensions que celles qu'on vit quand on est à quatre pattes sur le tapis de sa vie. Quand on est à quatre pattes sur le tapis de sa vie, on voit des petits points, mais on ne voit pas les dessins que ça fait. Si on se lève, tout à coup, on voit que tous ces petits points isolés, ça fait un dessin. Et que ce dessin, finalement, ça peut être tout un monde, toute une dimension qui nous échappe habituellement et dont on peut se rapprocher.
Bertrand Piccard, puisque vous tentez de nous aider depuis le début de cette émission à trouver une direction dans ce qu'on peut appeler les aléas des vents de l'existence. D'habitude, je pose la question à la fin de l'émission, mais je me permets de vous la poser maintenant. Quel est pour vous le sens de la vie?
Alors, sans vouloir imposer quoi que ce soit, parce que je pense que chacun va trouver un sens différent, à condition qu'il en cherche, parce qu'il y a des gens qui n'en cherchent pas, et je pense que c'est là qu'on souffre le plus. Mais pour moi, le sens de l'existence, c'est d'arriver à construire en soi tout ce que la vie ne peut jamais nous enlever. C'est-à-dire que si on croit que le sens de la vie, c'est d'avoir une famille, un métier, et de l'argent, et une maison, et une voiture peut-être, tout ça, la vie peut nous l'enlever. Il y a la mort, il y a des guerres, il y a des ruines, il y a des faillites. Tout ça, on peut le perdre. Je pense que le sens de la vie, c'est de construire en soi ce qu'on ne peut jamais nous enlever. C'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire une relation à la spiritualité, une relation à des dimensions plus importantes que celles qu'on vit tous les jours.
Dans votre livre, vous dites, essayez de toucher du doigt, j'allais dire, essayez de comprendre que peut-être il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est ça ? D'avoir accès à quelque chose de supérieur à nous.
Tout à fait. Moi, je pense qu'on a un rapport avec la transcendance qui est un petit peu le même que le rapport qu'on a avec la vie de tous les jours quand on dort. Quand on dort et qu'on rêve, on croit que c'est la réalité. Et quand on se réveille, on se dit « je suis cru dans une réalité, je ris bien de voir à quel point je l'ai prise au sérieux ». En réalité, je crois qu'on vit notre vie de tous les jours comme dans un état de rêve. Et si on a tout à coup la possibilité de réaliser qu'il y a un état d'éveil, il y a un état de conscience, il y a un état de grâce, il y a un état de relation avec une dimension transcendante, à ce moment-là, on entre dans une autre relation à la vie. On entre dans une autre relation avec soi-même et avec les autres. Tout à coup, tout ce qu'on fait prend beaucoup plus de valeur et d'importance.
C'est l'hypnose qui vous a fait prendre conscience de tout ça ?
Non, mais c'est l'hypnose qui m'a permis de le retrouver en moi. Parce que quand je le lisais, quand je faisais des exercices dans des groupes de recherche spirituelle, etc., c'était très abstrait et je ne comprenais pas justement cette nécessité de se dissocier de la vie de tous les jours et de sortir de l'habitude, de l'automatisme, de la mécanicité de la vie de tous les jours. On n'est finalement absolument pas conscient de ce qu'on fait. On subit et on réagit. On n'agit pas et on ne crée pas. Et je crois que le but de la vie, c'est d'essayer de créer et de ne pas subir. C'est-à-dire de créer cette confiance et cette conscience intérieure qui permet ensuite, dans la vie de tous les jours, d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus performante et puis peut-être d'échapper à certains événements qui nous feraient beaucoup souffrir autrement.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger. Du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas. La beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume. Ignorer la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber. Aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier à la mauvaise place. Je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Bertrand Piccard, on ne peut pas ne pas parler de votre dernier projet, Solar Impulse 2.
C'est un avion à propulsion solaire et le but est de faire le tour du monde l'année prochaine au mois de mars 2015. Nous avons déjà, avec mon associé André Borchberg, traversé l'Europe, volé sur la Méditerranée jusqu'au Maroc, traversé les États-Unis. Maintenant, il faut faire plus, il faut faire le tour complet de la planète et montrer ce qu'on peut faire sans carburant, sans énergie fossile. Montrer que finalement, on peut faire des choses absolument incroyables, a priori impossibles, avec des technologies propres et des énergies renouvelables. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, j'ai décollé avec 3,7 tonnes de propane liquide pour chauffer l'enveloppe du ballon, et après 20 jours et 45 000 km, j'ai atterri avec 40 kilos. Donc il restait 2 heures d'autonomie après 20 jours. Et là, je me suis dit que la prochaine fois que je ferai le tour du monde, il faudrait que ce soit sans carburant, sans cette angoisse permanente de tomber en panne de gaz. Et c'est comme ça que finalement le rêve de Solar Impulse est né.
Dans le désert égyptien.
Dans le désert égyptien, exactement. Puis ensuite, il a fallu trouver des gens qui y croyaient. Ceux qui nous ont soutenus, c'est ceux qui étaient en dehors du système dogmatique. C'est-à-dire que le monde des constructeurs aéronautiques ne nous ont pas pris au sérieux. Construire un avion de la taille d'un Airbus qui vole sans carburant et qui pèse le poids d'une voiture, ce n'est pas possible.
Ça, c'était en 2003.
Ça, c'était en 2003-2004, oui. Mais c'est intéressant de voir que les spécialistes sont extrêmement bons pour faire ce qu'ils savent faire, mais ils ne sortent pas du système. Et dans l'innovation, il faut arriver à sortir du système. Donc en fait, si on veut innover, si on veut créer, mais c'est la même chose pour un avion solaire ou pour sa vie en général, il ne faut pas essayer d'avoir une nouvelle idée, parce que les nouvelles idées ne servent pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est surtout abandonner des anciennes certitudes. Et à ce moment-là, on a l'esprit suffisamment ouvert. Et en fait, peut-être que c'est ça le message, en même temps de Solar Impulse ou de mon livre « Changer d'altitude », c'est de réaliser qu'on est paralysé par beaucoup de croyances. Et que si on veut fonctionner mieux dans sa vie, il faut apprendre à identifier ses croyances pour les abandonner et essayer d'avoir l'esprit ouvert pour l'inconnu, pour les doutes, pour les points d'interrogation, parce que c'est ça qui va stimuler notre créativité.
Oui, mais on a peur de l'inconnu, Bertrand Piccard.
On a peur de l'inconnu parce qu'on nous apprend à avoir peur de l'inconnu. Donc ce qu'il faut, c'est développer une confiance, intérieure.
Ça ne s'apprend pas à l'école, ça.
Ça devrait s'apprendre à l'école, mais comme ça ne s'apprend pas à l'école, si on veut évoluer, fonctionner mieux et être plus heureux dans sa vie, il faut apprendre à s'ouvrir à l'inconnu et à abandonner les raisonnements trop cartésiens et les certitudes et les habitudes et les dogmes qui sont des véritables prisons.
Comment vous avez fait pour continuer à avancer dans cet inconnu? Parce que vous ne saviez pas vous-même même si vous alliez arriver à monter ce projet.
J'ai essayé de trouver des gens qui ne savaient pas que c'était impossible. Et à force d'en chercher, j'en ai trouvé des gens extraordinaires, des entreprises pionnières dans leur domaine, qui ont compris qu'elles pouvaient développer quelque chose de nouveau, développer des nouvelles technologies pour rendre l'impossible possible. Et maintenant, ça marche. On a un avion qui a déjà volé jour et nuit à l'énergie solaire, sans aucun carburant.
Et pourtant, votre objectif n'est pas de révolutionner l'aviation.
Non, mais j'aimerais révolutionner la manière que les gens ont de penser aux énergies renouvelables, aux technologies propres. Parce que je crois que dans notre monde, on a une telle vision à court terme qu'on veut du profit, on veut du succès, on veut du résultat tout de suite. Et ça, on ne va pas pouvoir changer l'être humain. La nature humaine, elle est comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est donner du profit immédiat et un intérêt immédiat et du succès immédiat, mais par d'autres moyens. Il y a, avec toutes les technologies propres aujourd'hui, beaucoup de façons de développer les entreprises, beaucoup d'emplois à créer, beaucoup de profits à faire, en mettant sur le marché des produits dont le monde a besoin, des produits qui sont plus économes en énergie, plus efficients, moins polluants, qui économisent les ressources naturelles de la planète. Et ça, c'est le nouveau marché d'avenir.
Et qui met l'être humain au premier plan. L'être humain doit être protégé, vous le dites, hein, doit être au premier plan.
Moi, je pense que l'être humain doit apprendre à se protéger. La protection de la nature, vue par les écologistes, est parfois un malentendu, j'ai l'impression. Parce que la nature ira très bien sans nous, même avec des guerres thermonucléaires, ou même avec des changements climatiques qui causeront la perte de l'humanité, eh bien, même ces changements-là ne vont pas détruire la nature elle-même, ne vont pas détruire la Terre. La Terre restera, les espèces animales et végétales resteront, ou elles se reconstitueront. Mais l'être humain, lui, peut disparaître, l'être humain, lui, peut se mettre en péril. Donc je pense que si on parlait maintenant de protection de l'humanité, davantage que de protection uniquement de l'environnement, on impliquerait beaucoup plus de gens dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Et à ce moment-là, le court terme deviendra peut-être beaucoup plus utilisable. Les entreprises se diront, ah bien, pour nous sauver, nous, en tant qu'entreprise, il faut qu'on se diversifie. Il faut qu'on arrête de mettre sur le marché des produits polluants, parce que bientôt, non seulement ça détruira notre milieu de vie, mais ce ne sera plus du tout ce que les gens nous demanderont, ce que les clients nous demanderont. Donc il faut se recycler, il faut se diversifier maintenant, il faut amener ces nouvelles technologies. Et ça, je pense que c'est une manière de protéger l'humanité, de vivre beaucoup mieux en tant qu'être humain.
Vous dites que ces nouvelles technologies ne doivent pas rester bloquées dans des laboratoires et ça doit arriver dans le quotidien.
Vous savez, aujourd'hui, 50% de l'énergie consommée dans le monde est gaspillée à cause de vieilles technologies qui consomment trop de carburant, trop de charbon, trop de gaz, trop d'électricité.
Mais vous dites qu'on pourrait diviser par deux la consommation d'énergie fossile.
Totalement. Oui. Avec des technologies qui existent déjà aujourd'hui. D'isolation de bâtiments, d'éclairage au LED, de chauffage par géothermie, de voitures électriques ou au moins de voitures hybrides, de nouveaux alliages métalliques plus légers, de fibres de carbone plus légères pour des cages d'ascenseurs ou pour des voitures, des peinture spéciale pour les coques de bateau pour avoir moins de résistance. Vous savez, à force d'économiser 10% sur tout ce qu'on fait, avec l'entier de nos activités, ça fait énormément d'amélioration. Vous pouvez avoir maintenant des bâtiments qui ne consomment plus rien au niveau énergie extérieure, qui sont tellement bien isolés que la simple énergie du soleil ou de la géothermie suffit totalement pour les chauffer ou les refroidir. Donc il y a énormément à faire et là aussi, il faut changer d'altitude. C'est-à-dire que notre société doit changer d'altitude, elle doit lâcher ces certitudes, des vieilles manières de faire pour entrer dans une nouvelle dynamique. Et ça, le monde politique ne l'a pas assez compris. Et ceux qui l'ont compris ont besoin de plus de soutien dans les médias.
Cette nouvelle politique, vous l'appelez, je pense, l'éco-humanité.
Oui, éco-humanité.
C'est un beau mot.
Mais c'est un mot que j'ai créé pour finalement mettre ensemble écologie, économie et humanité. Parce que souvent, on parle de développement durable avec l'économique, le social, l'environnemental, etc. Mais il n'y a toujours pas l'être humain dedans. Je pense que c'est l'humanité qui doit être au premier plan dans sa recherche d'une meilleure qualité de vie et d'une meilleure relation avec son entourage et son environnement.
Donc pour résumer un peu ce projet Solar Impulse, vous voulez faire passer le message suivant, hein, de pouvoir inspirer le plus de gens possible à devenir les pionniers de leur existence. C'est
oui.
Un beau projet, ça.
Oui, oui. Ce n'est pas évident et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des grands défis. Et en fait, je pense que c'est ce que la majorité des gens perçoivent déjà de Solar Impulse. Parce que beaucoup de gens ne sont pas des spécialistes d'énergie ou de technologie, mais ils réalisent que quand on a un grand rêve, on peut le réaliser même si c'est difficile, même si tout le monde nous dit que c'est impossible. Il faut toujours écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi qui nous dit « en fait, j'aimerais essayer ». Même s'il y a le risque de rater.
Le pire, ce ne serait de rien tenter.
Le pire, c'est de rien tenter. Le pire, c'est de rester dans sa zone de confort. C'est de se renforcer de certitudes et d'habitudes et de continuer à souffrir en accusant la vie plutôt qu'en réalisant qu'on n'est pas prêt soi-même pour la vie.
Alors, qu'est-ce que vous espérez vraiment de cette aventure Solar Impulse 2, Bertrand Piccard?
J'aimerais que tous les gens qui croient qu'on peut effectivement protéger l'humanité contre parfois même sa propre bêtise, qu'on peut développer des nouvelles technologies pour être plus efficient, pour protéger les ressources naturelles de la planète, que tous ces gens-là puissent faire entendre leur voix, puissent réaliser qu'en fait, ils ne sont pas seuls et que le projet Solar Impulse puisse être comme un porte-voix pour tous ceux qui ont envie d'améliorer notre société, vraiment.
Bertrand Piccard, il y a une très belle phrase dans votre livre quand vous dites que nous devrions au moins pouvoir nous dire « J'ai tout fait pour avoir une vie à la fois intéressante et utile. Apporter de l'énergie aux autres pour avancer, sans que notre altruisme nous fasse perdre de vue nos propres buts. Il faut les deux, la relation à soi-même et la relation aux autres. »
C'est ça que j'essaie de faire de ma vie et c'est ça que j'ai essayé effectivement de transmettre dans ce livre. Ça peut devenir une manière de penser, une manière de se comporter dans sa vie de tous les jours qui rend la vie extrêmement intéressante.
Quel est le premier pas qu'on peut faire lorsqu'on veut aller dans cette direction et aller voler à cette altitude-là?
J'ai l'impression que le premier pas, c'est d'écouter les gens qui pensent autrement. Écouter les gens qui ont une autre approche de la vie et qui peuvent nous remettre en question. Et de se dire, et si c'est l'autre qui avait raison plutôt que moi? Ça permet de changer systématiquement quelque chose en soi, plutôt que de toujours croire que c'est nous qui avons raison et que les autres ont tort.
Est-ce qu'il y a une de vos filles qui a aussi cet esprit d'aventure, de pionnière?
Chaque fois qu'elles rentraient de l'école, qu'elles me racontaient ce qu'elles avaient appris, je leur disais « Et que dirait quelqu'un d'une autre religion sur le même sujet? Que dirait quelqu'un d'une autre culture? Que dirait quelqu'un d'une autre époque ?» Pour leur permettre de relativiser. Et maintenant, elles sont extrêmement intéressées à découvrir d'autres cultures, d'autres manières de faire. Les trois sont aux études, elles sont les trois sur un continent différent. Ce qui montre bien qu'elles ont envie de découvrir le monde et la vie, et ça me fait plaisir.
Merci infiniment, et j'espère que nous nous retrouverons après votre retour de Solar Impulse.
Très volontiers, très volontiers, merci beaucoup.
Merci encore à Bertrand Piccard d'être venu jusqu'à nous pour partager ses expériences de vie. Merci de nous faire rêver. Son livre « Changer d'altitude » paraîtra chez Stock mercredi. Vous trouverez également des bonus à écouter sur notre site franceinter.fr. Partir avec Marie-Pierre Planchon et bien sûr, vous pouvez les partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain pour une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Et après les infos, laissez-vous bercer par le nouvel album de minuit animé par Manval. Je vous souhaite une très très belle semaine et comme le disent les Grecs, Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.